Je vous invite à chercher dans votre Bible l'épître de Paul aux Romains et le chapitre 8. En raison de quelques visites qui m'ont interpellé dans le ministère et puis par rapport à l'Évangile, aussi parce que on prépare un voyage en Côte d'Ivoire, j'aimerais aborder un sujet ce matin, le sujet de l'évangile ou de la théologie de la prospérité face à l'évangile de Jésus-Christ qui nous est présenté dans les Écritures. On va essayer certainement de faire quelques messages sur ce sujet et on va voir en premier lieu basé sur Romains chapitre 8, on va voir quelques écueils qu'il nous faut éviter. Et alors de quoi parle-t-on? De la théologie de la prospérité. Cette théologie est née dans les années 60 aux États-Unis, 1960 aux États-Unis, et elle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde entier. Elle enseigne qu'en plus du salut, le Christ promet et assure à ceux qui mettent en œuvre leur foi la richesse matérielle, la santé et le succès. Cette théologie s'est développée autour de plusieurs personnalités issues du milieu pentecôtiste, notamment Kenneth Hagin, Kenneth et Gloria Copeland, Joel Austin, Joyce Meyer, Benny Hinn, Robert Tilton, pour ne citer que quelques-unes de ces personnalités. Personnalité dont l'enseignement est abondamment relayé sur des sites internet comme enseignemoi.com ou encore le Top Chrétien. Cela ne signifie pas que ces personnes ne disent jamais de vérité, mais que leur théologie principale est une perversion de l'Évangile, d'où un appel ce matin à la vigilance et un retour aux Écritures. Et ce matin, j'aimerais évoquer simplement trois écueils de cet Évangile qu'il nous faut absolument éviter. Trois écueils. On verra la perversion de la grâce, on verra la satisfaction de la chair, et puis le règne immédiat. La perversion de la grâce. Joyce Meyer, c'est une femme de 70 ans, possède plusieurs maisons. Elle possède aussi une maison. Enfin, chacun de ses enfants s'est vu attribuer une maison de plusieurs millions de dollars. Elle voyage en jet privé. Et elle a été critiquée par ses pairs pour son mode de vie luxueux. Et elle répond qu'elle n'a pas besoin de s'excuser d'être bénie. Ainsi, pour elle, dans les faits, c'est la richesse, c'est la bonne santé et la réussite qui fait sa justification et non Jésus-Christ crucifié. Elle a néanmoins accepté de revoir à la baisse son salaire et se contente depuis 2004 de 900 000 dollars de salaire annuel auxquels viennent s'ajouter les 450 000 dollars de son mari et bien entendu les royalties provenant de ses livres. Ce n'est pas un cas isolé. Parmi les plus riches, on peut citer Emir Macedo, fondateur et leader de l'Église universelle du règne de Dieu au Brésil. Il est à la tête d'une fortune de 725 millions de dollars. C'est un ancien employé de la Loterie Nationale, vous pouvez voir où il a puisé sa théologie, transformé en gourou de 6 millions de croyants et à la tête de 2000 temples évangéliques. Il a fait des émules en Afrique et en particulier en Angola, puisque c'est de langue portugaise également, et son discours fait rêver une population qui est peu éduquée, dont la majorité vit toujours avec moins de 2 dollars par jour. C'est cela qui est terrible avec cette théologie, c'est qu'elle va séduire des personnes qui sont en grande difficulté. Et des gens qui ont 2 dollars pour vivre vont en donner un à quelqu'un qui en a 725 millions simplement parce que ils espèrent à leur tour être bénis. Et le message qu'ils véhiculent, c'est « Dieu est avec moi, voyez comment il me bénit !» Que dirait, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'apôtre Paul ? Est-ce que était-il béni ? Était-il béni ? Il était malade et Dieu ne répondait pas à sa prière. Il dit que Dieu a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, faibles, méprisés. Il dit, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, nous sommes devenus comme les balayures du monde. Était-il béni ? Assurément, il était béni, mais pas selon la mesure qu'évoquent ces théologiens de la prospérité. Ce ne sont pas la richesse, la santé ou la réussite sociale qui font qu'une personne est justifiée devant Dieu. Ça n'est pas non plus parce qu'elle est pauvre, malade et démunie de tout qu'elle lui est agréable. Mais c'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, mort à notre place, et rien d'autre qui peut nous être imputé à justice. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 dit « Ce n'est point par de l'or, de l'argent, de l'or, des pierres précieuses » que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de votre Père, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Le chrétien doit posséder des richesses financières et matérielles qui sont, au dire de ses défenseurs, de cette doctrine, un signe de bénédiction de Dieu. Ainsi, un chrétien qui manque d'argent, ou de biens matériels, ou de santé, est considéré comme placé sous la malédiction de Dieu. Chaque difficulté dans la vie du chrétien est perçue comme un mauvais sort, un démon lancé par notre adversaire, le diable. Imaginez la gifle qu'on inflige à ceux qui déjà connaissent la souffrance. Mais notre chapitre de Romains 8 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ces théologiens de la prospérité promettent santé, richesse matérielle et salut. Non pas dans l'au-delà, mais ici et maintenant, grâce à l'intervention miraculeuse de l'Esprit-Saint. Et si l'Esprit tarde à se manifester, c'est que l'on n'a pas assez prié, c'est que l'on n'a pas assez donné. Alors on exploite des populations faibles dans la détresse et on met en plus de leur souffrance un fardeau supplémentaire. Vous ne croyez pas assez, vous n'obéissez pas assez, vous ne servez pas le Seigneur assez. Et cherchant à être justifiés par leurs œuvres, ils en oublient de se confier dans le Seigneur Jésus-Christ et dans son œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous, qui seul nous justifie. Ainsi, ceux qui ne sont pas guéris, qui connaissent des échecs dans la vie professionnelle, sont taxés de chrétiens désobéissants. Ils sont taxés d'incrédules. Ils n'ont pas encore saisi pleinement le salut, puisque avec le salut nous est acquis la guérison, la richesse, et ça aujourd'hui. Et les pauvres, ceux qui n'ont pas accès aux soins, remettent dans la corbeille, sûrs qu'à la prochaine collecte, Dieu les exaucera. Est-ce que ce n'est pas un étrange paradoxe ? Que ce soit parmi les évangéliques, historiquement les plus critiques vis-à-vis des indulgences plénières de l'Église catholique, qui permettaient aux catholiques de s'assurer une place au paradis moyennant finances, ce qui a provoqué la réforme au XVIe siècle. N'est-ce pas un paradoxe que ce soit parmi ces protestants, entre guillemets, que fleurit le commerce des prophètes de la prospérité? N'est-ce pas une perversion du message de l'Évangile? N'est-ce pas une corruption de la grâce? Puisqu'on achète la bénédiction de Dieu. Puisqu'on peut financer sa bénédiction. C'est une perversion de la grâce. La deuxième chose, c'est la satisfaction de la chair. L'affirmation centrale de la théologie de la prospérité est que la guérison et la richesse sont acquises dès aujourd'hui pour tout chrétien avec le salut en Jésus-Christ. Et bien entendu, cette perspective est extrêmement attrayante, en particulier pour les personnes les plus pauvres, qui vivent dans la précarité, dans la maladie. La théologie de la prospérité joue sur une corde extrêmement sensible du cœur naturel de l'homme, à savoir sa chair. Je trouve intéressant que cet homme au Brésil, il était autrefois employé de la loterie nationale. La corde sur laquelle joue la loterie nationale, c'est la convoitise de l'homme. Tu grattes un truc là, paf, tu touches le pactole. Chaque semaine, il y a un millionnaire. Chaque semaine, il y a quelqu'un qui gagne le pactole. Vous imaginez la chose? Vous avez juste à gratter, ça coûte presque rien. Et on fait la même chose. On fait la même chose. On joue sur la corde sensible. Être riche tout de suite. Être riche immédiatement. Comblé de tout ce que vous pouvez imaginer. On excite la convoitise de l'homme. Leur message, c'est « plus vous semez et plus vous récoltez ». Ça semble assez évangélique, cette pensée-là. Et elle se fonde sur ce qu'eux ont appelé la loi divine du retour au centuple, d'après Marc chapitre 10, versets 29 et 30. Je cite ici Gloria Copeland. Elle dit dans son livre « God's will is prosperity ». La volonté de Dieu, c'est la prospérité. Vous pouvez trouver ce livre aux éditions Copeland, bien entendu. Elle dit « Donnez 10 dollars et vous en recevrez 1000. Donnez 1000 dollars et vous recevrez 100 000. Donnez un avion et vous recevrez l'équivalent de 100 fois la valeur de cet avion. En résumé, Marc 10, 30 est une très bonne affaire. » Fin de citation. Robert Hilton écrit « J'ai commencé à constater que de bonnes choses se manifestaient autour de moi. Je donnais une paire de chaussures et j'ai constaté que 3 ou 4 paires revenaient. J'ai continué à donner des montres et j'ai constaté qu'une Rolex de très grande valeur a sauté jusqu'à mon poignet. » God's Law of Success, ça c'est son livre, God's Law of Success. La loi divine, les lois divines du succès, page 137. Mais regardons ce que dit notre texte, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 29-30. Jésus répondit, verset 28, je reprends pour le contexte. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Vous voyez ce qu'il est en train de dire ici ? Avec des persécutions. Ça, ils n'en parlent pas trop parce que ce n'est pas vendeur. Mais il est dit ici, à cause de moi, ou à cause de la bonne nouvelle de l'évangile. Ça signifie, si quelqu'un abandonne sa vie professionnelle, abandonne sa maison ou sa famille pour partir comme missionnaire à l'autre bout de la planète, ça ne veut pas dire qu'il va se retrouver avec 100 maisons à gérer à l'autre bout de la planète. Vous imaginez la bonne affaire. Non. C'est qu'il va trouver des frères, des sœurs, cette fois-ci dans la foi, qui vont pouvoir l'accueillir dans leur maison, qui vont pouvoir l'encourager et l'aimer. C'est ça que signifie notre texte. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça signifie que lorsque je veux m'enrichir, si je donne en vue de m'enrichir, comme pour la loterie, je ne fais pas ça à cause de l'évangile, je ne fais pas ça à cause de Jésus-Christ, mais je fais ça d'une manière égoïste et intéressée. Et si mon attachement à Dieu est seulement par intérêt matériel pour jouir d'une bonne santé ou de la réussite de mes affaires ou mon enrichissement personnel, alors je vis selon la chair et je cherche à satisfaire les désirs de la chair. Et Romains chapitre 8 dit, verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Où est-ce que Jésus a dit « Suivez-moi et vous deviendrez riche » ? Jamais lu ça dans l'Évangile. Il me semble qu'il a dit en Luc 9, 23 « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Pourquoi tant de monde se presse pour entendre leur discours ? Parce qu'ils vendent du rêve en exploitant la souffrance humaine. Ils promettent en un seul jour, en une seule fois, le miracle que les hommes sont partis chercher à Lourdes, le miracle que d'autres sont partis chercher à Las Vegas, ou le miracle que certains essayent de produire à Wall Street. Ils jouent sur la partie charnelle de l'homme, aspirant à la richesse, aspirant à la santé. Tout est centré sur l'homme. Dieu devient simplement contingent de l'homme. Dieu devient celui qui doit bénir. Tout est instrumentalisé au service de la prospérité, y compris l'obéissance à Dieu et la générosité chrétienne. J'obéis pour que Dieu me bénisse. Je donne parce que je veux recevoir encore davantage. Et tout dépend de la foi de l'homme. Il doit s'en persuader et il doit le proclamer. Il doit le commander à Dieu, selon la théologie de la prospérité. Dans la théologie de la prospérité, le seul véritable péché, c'est l'incrédulité. Et d'ailleurs, quand le miracle ne se produit pas, on vous jette à la face, « Oh, incrédule !» Mais le problème est qu'elle ne fait aucun cas des motifs et des désirs du cœur. Dans le mouvement de la prospérité, et je cite ici Ken Sarles, qui a écrit un livre qui dénonce cette théologie. Il dit « L'homme est devenu celui qui commande et Dieu celui qui sert. » Quand Paul dit « Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ » Colossiens chapitre 2 verset 10, il ne veut pas dire que Dieu est une banque au guichet de laquelle on peut venir demander tout pour satisfaire notre convoitise. Mais il signifie que Dieu a pourvu en Jésus-Christ afin que le croyant détienne en Christ tout ce dont il a besoin pour sa vie et pour sa piété. Ça, c'est sûr. Pour vivre ici-bas, que ce soit dans la pauvreté ou que ce soit dans la maladie, Dieu a pourvu en Jésus-Christ et il pourvoira encore, selon sa promesse, pour que nous puissions vivre d'une manière pieuse devant le Seigneur. Pour que nous puissions vivre d'une manière aimante et joyeuse et paisible envers le Seigneur. Oui, Dieu a tout donné en Jésus-Christ. Et puis le troisième écueil que je voudrais relever, c'est le règne immédiat. Selon la théologie de la prospérité, tout est acquis en Jésus-Christ et tout est à recevoir pleinement dans la vie présente sans attendre le renouvellement de toute chose. Que l'Écriture promet, elle, pour le moment du retour de Jésus-Christ. Et ils utilisent Ésaïe 53, versets 4 et 5. Vous connaissez bien ces versets. Où il est dit... Cependant, ce sont nos souffrances, aussi traduit nos maladies, qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ils utilisent ces versets pour dire... que la guérison nous est acquise de la même manière que le pardon des péchés. La volonté de Dieu, d'après eux, pour le croyant, est donc uniquement la santé ou la guérison immédiate. Et Kenneth Hagin écrit dans son livre « La guérison nous appartient », il dit « Non seulement Dieu a fait devenir péché celui qui ne connaissait pas le péché, mais il a fait devenir malade celui qui ne connaissait pas la maladie et il l'a rendu malade de nos maladies afin que nous soyons parfaitement en bonne santé en Christ. » Fin de citation. Mais vous n'avez jamais lu ça dans la Bible. Et Kenneth Hagin est mort. La maladie et la mort sont une conséquence du péché. Et cette conséquence frappe l'humanité dans son ensemble. Sans qu'il y ait de manière systématique une relation entre le péché de l'homme et sa maladie. Ou son infirmité. Par sa mort, Christ nous a acquis le pardon et la vie éternelle. Il nous a aussi acquis un corps glorieux qui ne sera plus assujetti à la maladie, au mal. Mais nous n'avons pas encore revêtu ce corps glorieux. Il nous faut attendre la résurrection d'entre les morts. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23, dit ceci. Mais, je vais lire à partir du verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Et puis un petit peu plus loin, verset 42. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé, corruptible, et il ressuscite, incorruptible. Il est semé, méprisable, et il ressuscite, glorieux. Il est semé, infirme, et il ressuscite, plein de force. » Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, mais quand on dépose un corps en terre, on dépose un corps qui est, qui a été sujet à la maladie, à l'infirmité et à la mort. Mais quand ce corps ressuscite, il ressuscite glorieux, il ressuscite incorruptible, il ressuscite délivré de la puissance du péché, et cela pour l'éternité. Dieu peut parfois montrer ici-bas un avant-goût ou un acompte de la guérison physique qu'il nous accordera. Mais il nous faudra néanmoins mourir avant de pouvoir ressusciter d'entre les morts. Et cette mort s'accompagne quasiment toujours de la maladie et de l'infirmité. Même pour ces théologiens de la prospérité, ils finissent par tomber malades, par être infirmes et par mourir. Paul, en fait, il reproche aux Corinthiens, dans le chapitre 4 de la première épître, il leur dit, regardez ces versets, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8, il dit, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. C'est ironique. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Il dit, si seulement vous régniez, ça signifierait que nous aussi on règne. Mais ce n'est pas le cas. Il leur dit, déjà, vous régnez. Mais la réalité n'est pas là. Regardez comment il continue. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Regardez, verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là, et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant, on ne règne pas encore. Paul dit en Romains chapitre 8, dans la suite de notre texte, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il dit, ce que nous vivons, c'est la souffrance. Ça, c'est ce que nous connaissons ici-bas, aujourd'hui. Mais cette souffrance causée par la maladie, le deuil, la pauvreté ou toutes sortes de choses, n'est pas pour l'éternité. Un jour nous régnerons. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, qui sera, c'est le futur. Regardez verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, nous compris, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il dit au ciel, oui, au retour du Seigneur, pour la gloire, pour l'éternité, nous aurons un corps transformé, un corps glorieux, un corps qui n'aura plus... sera plus sujet à la fatigue, au péché, à la faim, à la soif. Il sera plus sujet à la maladie ou à la mort. Toutes ces choses auront disparu. Mais elles sont encore à venir. La glorification de nos corps n'est pas encore là. Et c'est là cet écueil sur lequel on fait naufrage cette théologie de la prospérité et tous ces faux prophètes. C'est en espérance que nous sommes sauvés. En attendant, nous souffrons. Nous sommes encore sous la domination du péché. Nous soupirons après la rédemption de notre corps. Mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous a justifiés. Le Seigneur nous soutient. Le Seigneur nous instruit. Dieu ne peut-il pas légitimement avoir d'autres priorités que notre santé et notre prospérité matérielle? Est-ce que la vie d'un homme dépend de son compte en banque ou de sa santé? Est-ce que le bonheur est réservé aux bien portants et aux riches? Ou est-ce qu'on peut être handicapé et vivre pour Dieu? Est-ce qu'on peut être pauvre, démuni de tout, et aimer Dieu de tout son cœur et le glorifier? Assurément, assurément. Dieu tire gloire pour son nom parmi ceux qui sont dans la détresse, dans la maladie, et qui pourtant célèbrent sa bonté, non pour ce qu'il donne seulement, mais pour ce qu'il est véritablement. Dieu nous éduque et nous transforme à sa ressemblance par des expériences qui sont souvent douloureuses, comme la privation, l'épreuve, l'attente, la dépendance, l'espérance, la persévérance. Tout cela, Dieu nous éduque et Dieu nous transforme par ces choses. Généralement, je ne fais pas de visite le samedi après-midi parce que je prépare mon message. Exceptionnellement, j'en ai fait une hier. J'ai visité une famille, une dame chrétienne. Elle a perdu 2 enfants en bas âge, accidentellement, dans des circonstances tragiques. Elle et son mari ont été spoliés de leur entreprise par la mafia arménienne. Alors son mari est venu en France. Un an plus tard, elle l'a rejoint, et un an plus tard encore, son mari, serviteur de Dieu, est mort d'une crise cardiaque, il avait 50 ans. Et le fils qui lui reste, qui reste avec elle aujourd'hui, qui l'a rejoint, est né sourd-muet, ainsi que sa belle-fille. Ils ont 2 petits garçons. Cette femme fait actuellement des ménages pour nourrir tout ce petit monde dans l'attente de papiers pour pouvoir séjourner en France. Maintenant, quel message pour eux? Quel message? Vous ne pouvez être heureux et glorifier Dieu que si vous saisissez par la foi la guérison et la richesse. Ou parce que vous allez retrouver par la résurrection des morts aujourd'hui vos enfants qui sont décédés il y a des années ou votre mari qui est décédé. Ou peut-être je devrais prêcher, vous êtes sous la malédiction de Dieu. Votre vie est liée par les puissances démoniaques. Ou bien tout cela parce que vous ne donnez pas suffisamment à l'œuvre de Dieu. Et c'est pas ce qu'annonce, c'est pas la bonne nouvelle, ça. La bonne nouvelle dit, vous pouvez glorifier Dieu dans l'état où vous êtes, en l'aimant de tout votre cœur, parce qu'il a manifesté à votre égard son amour en livrant Christ pour vos péchés. Il vous assure son secours et sa grâce tous les jours de votre vie. Il vous réunira avec votre époux et vos enfants décédés durant l'éternité. Et les premières paroles que votre fils et votre belle-fille entendront sont celles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'a jamais entendu entendra Christ en premier. Voyez-vous l'enjeu de cette théologie ? C'est que le bonheur est réservé aux riches et à ceux qui sont en bonne santé. L'Évangile dit que Jésus-Christ, lui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, pour que nous soyons enrichis dans l'éternité avec lui. Non pas d'un compte en banque bien garni, mais de ce qui est bien plus riche encore, savoir la ressemblance à Jésus-Christ et la transformation de notre être tout entier à la ressemblance de Jésus-Christ, et cela pour l'éternité. Voilà notre message. Le pardon des péchés est acquis aujourd'hui pour celui qui croit en Jésus-Christ crucifié. Dieu lui promet la vie éternelle et un corps glorifié dans l'éternité. En attendant, il lui promet le secours pour sa vie. Aujourd'hui, vous pouvez connaître toutes sortes de souffrances, de deuils, de difficultés. Dieu peut-être dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa souveraineté, peut vous changer cela et puis vous délivrer de la maladie ou de la pauvreté ou de je ne sais quelle situation délicate. Mais avec la même sagesse, la même science, le même amour, la même puissance, la même providence, Dieu peut vous garder dans l'état où vous êtes et transformer votre cœur et lui donner de l'aimer de tout entier et de le servir et de jouir de sa présence continuellement et de porter du fruit pour la gloire de son nom ici-bas et jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.